Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Pauline Grimaldi d'Esdra, la directrice générale d'Alchimie. Bonjour Pauline.
Bonjour Alexis.
C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Alors je crois que tu as un parcours vraiment dans l'univers de l'entertainment avant d'arriver chez Alchimie. Est-ce que tu peux nous redire un peu les grandes lignes ?
Alors les grandes lignes de ma carrière, si je puis dire, d'abord ça fait très longtemps que je travaille. Après des débuts dans la finance sans intérêt particulier, j'ai rejoint la Fox en 92 où j'ai dirigé pendant une dizaine d'années la vidéo chez Fox. Et puis j'ai quitté en 2005 pour rejoindre Universal Pictures où j'ai dirigé France et Benelux, la vidéo également de la filiale Home Entertainment. C'était les grandes années du DVD, puis le grand déclin du DVD. Donc moi j'ai connu les deux étapes, la croissance à 30% chaque année et puis les gros déclins jusqu'à maintenant.
Oula, grandeur et décadence comme on dit.
Absolument,
de la vidéo.
C'est très formateur hein, parce que gérer de l'hypercroissance et gérer de l'hyperdéclin, ça apprend beaucoup et ça oblige à repenser nos stratégies pour continuer à générer du revenu sur tous les films, toutes les séries, tous les documentaires qu'on commercialisait en DVD.
Génial. Alors, je voulais t'inviter parce que tu es chez Alchimie, qui est pour moi un peu un des acteurs innovants dans le monde audiovisuel, qui est un nouveau modèle un peu de... Tu vois, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais un peu lié à la distribution digitale de contenu. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à ce challenge et un peu, finalement, la spécificité d'Alchimie ?
Oui, alors quand j'ai quitté Universal, j'ai été contacté par Nicolas Duep, le président d'Alchimie, qui avait eu des soucis de santé très importants et ne pouvait plus être aux commandes opérationnelles de son entreprise. Donc je l'ai rejoint fin 2021. Et je suis arrivé dans une situation économique tendue, assez contrainte en termes disponibilité financière, mais avec un business model qui était intéressant, qui était de créer des chaînes de SVOD, donc de vidéo à demande par abonnement, parce que Alchimie avait développé la plateforme technologique permettant de le faire. Avec un modèle intéressant qui était de dire je fédère des milliers d'heures de catalogue qui ne sont pas exploitées par ailleurs, que j'acquière en revenu sharing et je crée des chaînes thématiques parce que évidemment Alchimie n'avait pas la puissance de contenu des grandes plateformes de SVOD notamment américaines et donc Alchimie avait créé 140 chaînes histoire, science, astronomie, etc. avec un certain nombre de contenus et qui étaient distribués chez les grands opérateurs téléphoniques.
D'accord.
Et puis les grandes plateformes type Amazon, Orange Box, etc.
Donc modèle TV et online, un peu des deux ou...
Oui, non, c'était que de l'OTT. Quand ça rentrait dans les box, c'était
de l'OTT.
C'était pas Orange Box, c'était que de l'OTT.
Ok.
Donc finalement, le modèle initial, c'était une plateforme de streaming vidéo in-house, complètement développé par les équipes de Alchimie, qui étaient propriétaires d'Alchimie, propriété d'Alchimie finalement.
D'accord.
Rien n'a été acheté sur le marché pour agglomérer tout ça dans une plateforme. Le modèle de la SVOD, quand on est un petit player, c'est un modèle économique compliqué.
Tu peux le redéfinir, comme ça les auditeurs ils se remettent dans le bain.
SVOD, c'est Netflix, c'est Prime, c'est
les grandes
Apple,
plateformes qu'on connaît.
Les six grandes plateformes américaines représentent plus de 85% de parts de marché. Je vais vous donner un exemple. Salto a fermé faute de rentabilité alors qu'ils avaient 800 000 abonnés.
Oui. Qui émanait de TF1 et M6 quand même. Hein.
Oui, avec des contenus français forts, avec des contenus exclusifs et avec beaucoup de contenus récents. Moi, je n'ai pas de contenu exclusif, puisque nous n'achetons pas les contenus et nous ne les rémunérons que sous forme de revenu sharing, de partage de recettes. Pas de contenu récent, peu. Et une difficulté à générer des investissements marketing suffisamment puissants pour aller faire connaître l'existence de ces chaînes auprès des consommateurs. Donc, on a vite été confronté à des, à des obstacles financiers qui ne nous permettaient pas de continuer sur ce modèle-là. En revanche, il y a une chose qu'on fait très très bien, c'est qu'on est une plateforme de streaming vidéo très performante. Donc, au lieu de n'utiliser ces technologies que pour créer des chaînes à destination des consommateurs, finalement, puisque c'était des chaînes à l'abonnement.
Oui.
On conserve cette capacité la technologie. Et maintenant, on le fait en B2B.
Ah,
donc, jusqu'à au début de l'été, on proposait de créer des web TV, l'équivalent d'une web TV, dans notre environnement technique. Et puis, on a mis en ligne, tout début juillet, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle 42 VideoBricks et qui permet à des entreprises, à des développeurs dans les entreprises, de venir chercher via des API, donc des applicatifs, les briques technologiques qui leur permettent d'encoder, stocker et streamer de la vidéo dans leur environnement technique. Donc on est devenu une boîte de tech pour des techs. On continue à exploiter les chaînes. Vidéo que nous avions créées. Mais vraiment, notre pivot, notre nouveau modèle, c'est un modèle de B2B permettant aux entreprises de créer dans leur environnement technologique du streaming vidéo. Donc, le terme technique, c'est qu'on est une plateforme de vidéo as a service.
Intéressant. Ah oui, donc, on sent le pivot là entre le modèle audiovisuel.
On n'est pas une SaaS, on est une VPaaS, Video Platform as a Service.
Ah, c'est bien, là, ça va intéresser tous les gens techniques innovants dans l'audiovisuel.
Oui, surtout que c'est simple, nouveaux modèles. C'est flexible. Il suffit de venir se connecter au site de 42 VideoBricks pour acheter, finalement, pour s'abonner aux fonctionnalités technologiques qu'on veut intégrer dans son propre environnement. On n'est pas obligé de tout prendre.
Avoir donc des entreprises, des médias, c'est assez varié.
Essentiellement des entreprises, c'est ceux qui ne sont pas encore équipés en streaming vidéo, finalement, ou qu'ils font à travers des sociétés extérieures et qui se disent « l'heure est venue de l'intégrer dans mon environnement informatique ». Et, les use cases, comme on dit, sont très variés. Ça peut être un directeur du marketing qui veut diffuser ou enfin en tout cas streamer ses nouveaux produits envers sa clientèle, ses revendeurs, peu importe, les consommateurs. Ça peut être des ressources humaines qui se disent « je vais créer un site interne de communication d'entreprise, de trombinoscope vidéo, etc. pour mes équipes ». Ça peut être de la communication corporate, ça peut être un réseau de franchisés que le franchiseur anime en descendant les nouvelles collections, les savoir-faire, etc., aux 150 magasins ou aux 300 magasins de sa franchise.
Donc ça devient plus façon. B2B et un peu plus brand content, là, qui est le métier que je connais un peu plus.
Oui,
on est d'accord, on se rapproche du monde des entreprises. Et ça veut dire que vous êtes une alternative à des YouTube ou des Vimeo dans
Exactement.
J'imagine à une manière plus indédiée, parce que ton sujet est très intéressant. Je me suis toujours étonné que les channels de marque ne soient pas un peu plus développés et éditorialisés. Donc c'est peut-être là où vous amenez une patte différente d'un Google.
En général, quand les marques vont sur YouTube, c'est pour chercher du volume. C'est ouvert, c'est pas protégé. Quand tu mets un contenu vidéo sur YouTube, c'est pour toucher le grand nombre. Donc, tu es vraiment dans une logique de B2C.
C'est vrai.
C'est pas protégé. Tu peux pas te dire, je voudrais faire de la communication institutionnelle interne, tu vas pas les mettre ça sur YouTube. L'autre point, c'est que YouTube, à la différence de nous, est américain, certes, mais nous, on est RGPD compliant. Enfin, on respecte toutes les règles RGPD.
Française.
On est une société française. Nos serveurs sont en France ou en Europe. On clique toutes les cases. Ce qui est recherché par beaucoup de nos clients, qui est de dire, nous, on est une entreprise française ou une entreprise européenne. nous n'avons pas forcément envie d'être sur des plateformes américaines qui ne vont pas respecter la confidentialité des données, etc. Et c'est important quand on parle de communication interne, où il y a des informations sur les salaires, pas les salaires, mais les salariés qui font des petites vidéos pour se présenter, etc. Beaucoup d'entreprises nous disent, mais ces informations-là, nous, on veut qu'elles soient stockées sur des serveurs en Europe. On veut respecter la RGPD. Donc, voilà. Vimeo, bah, c'est un peu la même logique que ce qu'on faisait avant. C'est que Vimeo, tu ne crées pas ta chaîne dans ton environnement informatique. Là, nous, 42 Vidéobricks, ça permet aux développeurs de rentrer du streaming vidéo sur leur intranet sans passer par une société extérieure qui va leur fournir une clé en main. Je sais le fournir clé en main si on veut. Mais finalement, c'est le parallèle de dire non, mais moi je veux le rentrer dans mon système, je veux que ce soit mes couleurs, je veux faire du front-end, enfin du développement devant, d'une pagination qui va être propre à ma marque, propre à mon entreprise. J'ai juste besoin de la technologie d'encodage, de streaming, de toutes ces affaires.
Donc, modèle un peu SaaS derrière.
C'est un modèle SaaS.
Exactement.
C'est un modèle SaaS de vidéo plateforme.
Bon, bah super intéressant en tout cas de cette nouvelle technologie au service de à la fois des marques, des entreprises et de l'audiovisuel. Peut-être pour parler, Alchimie, il a combien d'années la société?
Alchimie a été créée en 98.
Ok, donc c'est quand même assez audacieux. C'est vrai qu'en France et en Europe, il fallait y aller, d'aller sur ce type de terrain, comme tu dis, où il y a des très grandes plateformes qui sont arrivées ensuite.
En 98, il n'y avait pas encore les
Ils n'étaient pas là encore. Mais c'est intéressant de votre pivot parce qu'en fait, on se rend compte à quel point le B2C draine, tu l'as dit en filigrane, des très importants moyens marketing que les Français finalement n'ont pas réussi, parce que Salto, nous on a eu la dire comme de Netflix qui racontait les budgets sur les acquisitions de droits, pardon, et c'est évidemment c'est on n'est pas dans les mêmes eaux, quoi.
Bien sûr, on n'est pas dans les mêmes eaux. Il y a pas mal d'articles de presse qui mentionnaient que si on prend les six gros américains et qu'on additionne leur budget d'acquisition de droits par an, on avoisine le 150 milliards
donc
de
c'est
dollars.
Colossal.
Donc nous, petite entreprise, même si on est innovant, créatif, où on essaie de trouver les petits, la façon d'avoir du contenu attractif, etc.
Oui,
c'est
on est
c'est extrêmement difficile d'exister.
Donc le cas d'un 10%, parce que le réel de 10% est venu juste avant, c'est un peu l'exception qui confirme la règle.
Bah, oui et non, parce que 10%, d'abord ça a été créé pour la télévision,
oui,
les
à
télévisions
la base,
françaises
raison.
Sont puissantes.
Oui.
Et ensuite, fort du succès en télévision,
c'est vrai ce que tu dis.
Oui. C'est passé sur Netflix et donc ouverture mondiale.
Ce qui a été un peu l'antithèse de Casa de Papel, qui avait été low profile sur la télé espagnole et qui a été remarketé par Netflix derrière et qui avait cartonné. Mais c'est intéressant ce que tu disais, c'est qu'il y a le budget d'achat d'acquisition. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais la petite question, parce que ça renoue avec ton métier d'avant. Mais il y a aussi le budget marketing pour lancer les programmes. Parce que ça aussi, c'est énorme d'aller lancer un programme. Ça, tu peux en parler avec la casquette de ta vie d'avant, d'éditrice,
alors,
parce que c'est un métier.
Il y a deux choses différentes. Moi, ce que je remarque de l'extérieur quand je vois les communications de Prime ou de Netflix, oui, il y a un focus sur le contenu qu'ils sont en train de promouvoir, mais en même temps, forcément, c'est un focus sur la plateforme.
Oui,
parce que
c'est produit
ce
d'appel. Je pensais à Tapi, là, qui va arriver
mais
et tout le monde attend Tapi, ça
bien
va
sûr.
Faire réabonner sur du Netflix.
Alors que quand tu travailles dans une major de cinéma, mais qu'elle soit française ou américaine, peu importe finalement quelle est la marque derrière le film, tu ne promeus que le film.
Intéressant.
Tu promeus Oppenheimer, que
ou
Oppenheimer
Barbie,
ou Barbie.
Oui. On ne sait même pas quel studio derrière.
Bah,
quoi.
C'est Warner pour l'un et Universal pour l'autre.
Nolan, on sait qu'il est
Disney,
Warner.
À part Disney, bah non, parce que tu vois, Nolan, c'était chez Universal.
Ah oui, il a bougé de studio.
À part Disney, où tu sais que tu vas voir un Disney, presque quand tu es une mère de famille, que tu amènes tes enfants voir un film, tu dis, bon, je vais voir le dernier Disney.
C'est très vrai ce que tu n'avais pas réalisé. Ouais, là, le pouvoir des marques en plateforme versus les studios qui étaient pourtant des marques mythiques avant.
Oui, c'est chaque film est une marque.
Oui,
et donc on ne communique pas complètement de la même manière.
C'est même le jingle d'avant qui était mythique de la Fox et tout ça.
Bah, il existe encore un peu sur certains films Fox, mais maintenant c'est beaucoup plus Disney. Mais le jingle de Universal, c'est pareil, il est archi connu. Mais tu t'en rends compte une fois que tu regardes le film. Tu ne vas pas voir le film parce que c'est un film de tel studio. Tu vas voir le film parce que c'est Oppenheimer ou Barbie. Alors que
tu as vu d'ailleurs un de ces deux films qui ont...
J'ai vu Oppenheimer, oui.
Et que tu as bien aimé.
J'ai adoré.
Qui était au niveau d'un Inception, un très grand Nolan pour toi.
Oui, et en plus avec une dimension historique qui m'a beaucoup intéressé.
D'accord, très inédit. Ouais, il
très inédit, l'acteur est canon, enfin voilà, j'ai trouvé ça formidable.
Ouais, c'est clair que c'était deux films, en tout cas, qui ont un peu réveillé le cinéma après c'est Top Gun. Mais juste
bien.
Ça, tes points de culture personnelle, cette expérience d'Universal, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans, ou qu'est-ce que t'as retenu de tout ça?
Ah, de mon expérience qui a quand même duré 16 ans hein, chez Universal, oui. Et puis 13 avant chez Fox, où je faisais à peu près la même chose finalement. J'ai dû lancer, je ne sais pas, peut-être 5000 films en vidéo.
Quand même.
Donc, mon souvenir, c'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et d'essayer de refaire que chaque nouvelle sortie en DVD soit un événement. Alors, ça a été plus difficile sur la fin parce que le marché s'est beaucoup
tendu,
réduit.
Oui.
Je rappelle que tu parlais du confinement. On était marchandises non essentielles, nous. Hein.
D'accord.
Nos points de vente étaient fermés pendant le confinement. Donc voilà. Mais avant ces périodes-là, il y a eu les grandes années où le DVD était un support vraiment phare pour exploiter les films. Et donc, on avait beaucoup de créativité, de ressources aussi pour événementialiser chacune des sorties. Et dans les magasins, c'était magnifique. On avait
moi,
des
j'en ai encore un paquet.
Hein,
d'ailleurs, dans les bureaux, on en a encore plein. Ça paraît déjà obsolète. Et tu avais vu venir ce changement. Ça fait penser à l'argentique qui a un moment disparu.
Oui.
Tu avais vu venir que ça y est, ça allait être balayé et tout ça.
Non, on ne l'a pas vu aussi vite que ça n'est arrivé. On l'a tout de suite vu quand la VOD est arrivée, parce que le marché français, en tout cas en France, hein, on n'a jamais été un marché de location de DVD.
Mmh.
On était un marché de vente. Et quand la VOD est arrivée, c'était quand même beaucoup plus simple que d'aller au vidéoclub. Donc très vite, ça a éteint le métier locatif de la vidéo.
Mmh. Oui, les fameux vidéos futures et tout, qui malheureusement,
ouais,
ils ont disparu.
Ils ont disparu en 2 ans, je pense, hein, un truc comme ça. mais ça a toujours été un petit marché, la location en France. En revanche, la vente, c'était un très très gros marché. Ça a mis plus de temps à décliner, ouais.
Un ou deux titres qui t'ont marqué en sortie?
Moi, je détiens le record mondial, non, le record français, mais c'était encore de la VHS à l'époque, c'est Titanic.
Ah oui, ah, t'as sorti
Titanic.
Titanic,
c'était un truc mythique.
Ah, en DVD, tu l'as sorti?
Ah, c'était de la VHS.
VHS,
on a sorti le DVD peut-être un an après.
Les auditeurs. Okay.
98.
Combien de VHS vendus pour Titanic? Pas mal, j'imagine.
3,5 millions.
Pas mal, il était
content,
James Cameron.
1 million premier jour.
Waouh, wow. Ah
1 million
ça,
le premier jour, le jour de la sortie. Donc,
ça s'est arrêté quand la VHS finalement
L'arrivée du DVD, c'est bah, justement 98-99, Microcosmos,
hein.
Le premier.
Ah oui, Jacques Perrin,
ouais,
d'accord.
Le film français, c'était édition Montparnasse qui a mis sur le marché le premier DVD français, je crois.
Donc Titanic, t'as fait quoi d'autre de marquant en plus de ça?
Moi j'ai vendu tous les Star Wars, je sais pas combien de fois.
Star Wars, ok, pas mal. Ça devait être marrant, ça, de faire les droits avec Lucasfilm et toutes ces sociétés mythiques.
Alors marrant, c'est pas forcément
pas
le
marrant.
Nom,
oui,
le
peut-être
terme.
Lucas, ça devait pas être démarrant.
C'était pas très drôle.
Non, je veux dire, côté passion, côté business.
C'était beaucoup de pression, mais en termes de business, c'était vraiment très intéressant parce que.
Il est tout
fans...
verrouillé à Lucasfilm.
Ah, mais les fans de Star Wars, moi, c'était à l'époque de la VHS, avant que Star Wars parte, Lucasfilm parte chez Disney. On ressortait tous les ans ou tous les 2 ans un nouveau coffret, toujours des mêmes Star Wars. On changeait, une fois c'était or, une fois c'était argent. Et on en vendait toujours à peu près le même volume. Et donc, je crois qu'on vendait toujours aux mêmes fans qui avaient envie d'avoir tous les formats qui existaient.
T'as refait des rétrospectives Spielberg, j'imagine, sur Universal, forcément.
Moi, j'étais chez Universal quand ils ont fêté leurs 100 ans.
Je me fais un petit plaisir, là, pour les auditeurs, ils ont compris. Hein.
Donc, on avait le coffret des 100 ans avec les 100 films mythiques d'Universal. Oui, ouais, des rétrospectives, il y en a eu beaucoup.
C'est lequel de Spielberg qui cartonne le plus en DVD? C'était Les Dents de la Mer, tu dirais? Ou Sauver le Soldat Ryan? Lesquels seraient les plus... Désolé,
date,
c'est un peu une colle.
Mais... J'en sais rien, mais les deux...
Tous,
oui.
Ou Arrête-moi si tu peux... J'imagine.
Ah, c'est moins fort.
Moins fort que...
En fait, c'est un peu différent, parce que Les Dents de la Mer, quand c'est sorti en DVD, c'est sorti longtemps après sa sortie initiale en VHS. Jurassic Park, Jurassic World, c'est des gros volumes.
D'accord.
Mais après, les plus récents, C'est des très grosses sorties salles, mais c'est moins en vidéo physique, parce que le marché de la vidéo physique décline. En revanche, je n'ai pas en tête les scores de la vidéo digitale, mais c'est très gros.
D'accord. En tout cas, c'était vraiment une époque marquante en t'en parlant. Même, je me rappelle des Évadés qui avaient moins cartonné en ciné et qui avaient cartonné en DVD. C'est un de mes films préférés, ouais, Shawshank Redemption.
Ouais, c'était vachement
et je sais que l'édition, elle avait cartonné.
Mais oui, parce qu'en fait... Il y a eu une époque où le marché de la vidéo physique permettait de redonner une chance ou une deuxième vie à des films qui n'avaient pas forcément complètement rencontré leur public en salle, parce que bah, soit la concurrence, la météo, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'à un moment ça ne va pas en salle. Et finalement, eh bien, on redonnait vie à ces projets quelques mois plus tard.
D'accord. Et alors, il continue à avoir quelques éditeurs vidéo encore dans le marché ou peu, beaucoup
oui,
moins ?
Il y a, alors, des éditeurs, il y en a beaucoup. Des distributeurs, il y en a beaucoup moins.
D'accord.
Le marché s'était beaucoup concentré, mais depuis au moins 10 ans. Hein.
Okay.
Là, maintenant, il y a 3 gros distributeurs. Il y a Disney, Warner et un distributeur qui s'appelle ESCD, okay, qui regroupe tous les autres. Et il y a Universal encore.
Alors, je referme un peu la parenthèse, je dirais, entertainment. Alors, ce qui est intéressant sur Alchimie, c'est que finalement, c'est les nouveaux business models de l'audiovisuel, puisque tu as parlé de la SVOD au début, là, vous allez sur le B2B. Toi qui as bien vu ce business de l'intérieur, qu'est-ce qui se joue finalement pour amener un peu d'air frais? Parce que c'est quand même des secteurs ultra petits, quoi. Toi, de ce que tu as vu finalement, là, c'est intéressant parce qu'il y a le terrain des marques et des entreprises.
Ouais, alors moi, je pense qu'il y a vraiment deux métiers. Il y a le B2C, quand tu veux parler à un consommateur. Donc, c'est vraiment les grosses plateformes SVOD ou même Molotov ou toutes ces plateformes qui ont comme but de séduire des consommateurs. C'est vraiment le contenu, d'après moi, hein, c'est le contenu qui fait la différence. Tu ne vas pas sur une plateforme pour le nom de la plateforme.
Content is king, comme on dit.
Ah bah ouais, puis ils le disent 3 fois, et distribution is queen. Mais c'est ensuite. Donc, c'est vraiment le contenu. Quand tu parles à un consommateur, c'est ça. Et c'est la même chose quand tu vas au cinéma, c'est la même chose quand tu achètes un livre, c'est le
vrai
contenu qui
une
fait.
Une musique, un très bon album.
Exactement.
C'est la création.
Exactement. Le monde de la création, le monde culturel au sens large, c'est tu vas voir telle œuvre ou tu lis telle œuvre. Ça, c'est le métier qui consiste à aller vendre du contenu des œuvres culturelles à du grand public. Nous, maintenant, notre pivot, il est réalisé à vendre de la technologie à des entreprises pour qu'ils puissent diffuser leur propre contenu, qui est du brand content dont tu parlais, ou pas forcément, qui peut être... on disait communication institutionnelle corporate, qui peut être, tu prends, je ne sais pas moi, une marque de mode, c'est une façon
retail,
de présenter à tous ces magasins de son enseigne, donc c'est un réseau de franchisés ou
beaucoup,
un réseau
ça.
Propre, hein, ce n'est pas forcément de la franchise, ça peut être des magasins détenus en propre, d'avoir en permanence un outil vidéo où ils peuvent aller voir les modèles, qui sont présentés chaque saison, etc., etc.
Intéressant. Alors, quelques tendances, on va essayer de faire de la prospective sur ce business. On est un peu là-dedans aussi sur le brand entertainment. Donc là, tu dirais les grosses tendances. Le retail, ça me paraît très intéressant comme tendance, un peu retail-tainment, d'amener des channels un peu complémentaires dans les points de vente, des apps.
Oui, mais la dernière chaîne qu'on a créée, enfin, assez récemment, c'est une chaîne pour les Décathlon, qui s'appelle Sport Univers, qui est sur le site de Décathlon. En fait, quand le consommateur achète chez Decathlon, il a des points quand il dépense. Et avec ces points, Decathlon lui offre un mois d'abonnement ou 2 mois, je ne sais plus exactement, 1 mois, je crois, à cette chaîne. Et puis, si les consommateurs sont séduits, ils vont continuer à s'abonner. Donc, évidemment, c'est une chaîne qui a vocation à parler de sport, de découverte, de bien-être. Et on est vraiment dans l'univers de Decathlon. On ne va pas leur mettre un documentaire sur l'astronomie. Ce n'est pas, c'est pas leur truc. Donc, il y a deux choses. Il y a soit les entreprises qui ont leur propre contenu et qui veulent trouver un moyen technique de le diffuser en gardant la main sur la technologie qu'ils utilisent. Soit des entreprises, donc, dans mon exemple de Decathlon, qui veulent proposer à leurs consommateurs
une expérience
un peu différente que juste l'achat dans les magasins. Après, on est aussi capable de faire du système hybride. Nous, on a des clients qui nous disent « Moi, j'ai du contenu, mais peut-être pas assez. Est-ce que je peux illustrer le propos que je veux défendre, par exemple, sur toutes les logiques RSE. Mmh. Moi, mon entreprise, elle se bat sur la protection de la planète de telle manière, telle... J'ai pas beaucoup de contenu pour illustrer ce discours. Est-ce que vous, dans vos 50 000 heures de...
Ah oui, de rush, ah oui, de, t'as tous les contenus. Ouais.
De documentaires, on est essentiellement avec des on a essentiellement des contenus documentaires.
Pas mal.
Donc
ça.
En fait, finalement,
c'est un peu de la curation, ça.
Oui. On met à disposition des entreprises qui le souhaitent les contenus. C'est de la location, enfin, c'est du revenue sharing, c'est un flat fee. Il y a tous les modèles économiques possibles. Hein.
Donc, il faut un peu évangéliser le marché entre les agences, les marques. Il y a plein de parties prenantes dans votre secteur.
Oui. Je pense que tu as vraiment raison parce que nous, on se dit que les agences digitales qui font du contenu pour des entreprises... pourrait être intéressé à aller plus loin en disant, une fois que j'ai fait le contenu, l'entreprise, elle le stream comment ? À part YouTube quand tu veux parler au grand public. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de streamer le contenu en venant, finalement, en embarquant notre solution pour la packager avec le contenu qui est fait pour l'entreprise cliente.
Intéressant. Et peut-être réfléchir un peu plus en fil rouge, parce que souvent le problème des marques, c'est qu'elles peuvent être en ponctuel sur une OP. Là où il faudrait avoir une logique un peu de channel.
Mais l'avantage de notre solution technologique, c'est que finalement, quand on crée une chaîne, on crée une plateforme vidéo, c'est comme créer une chaîne, c'est comme créer un petit Netflix. Donc oui, en fait, l'entreprise, elle peut avoir les playlists qu'elle souhaite. Donc elle peut avoir ses playlists de brand content, elle peut avoir ses playlists de communication corporate, communication investisseur, etc. C'est elle qui décide. C'est la même chose que de dire film français, film américain,
c'est
série.
C'est, comme tu dis, c'est presque d'avoir un nouveau métier de grille de programme de marque. C'est vrai que le cas qu'on cite beaucoup, c'est Red Bull, évidemment, qui a pu
pousser.
Parce qu'eux,
ils ont beaucoup de contenu.
Et puis, ils ont fait ce que tu dis, c'est-à-dire les partenariats avec les compétitions et vachement bien éditorialiser tout. Il y a d'autres exemples que tu donnerais en plus de Red Bull qui est vraiment marquant sur leur manière d'organiser tout ça. Il y a Mattel un peu.
Il y a Mattel, mais moi je pense qu'il y a même toutes les grandes sociétés internationales
de luxe. Bien sûr.
J'allais les citer, les voitures. Mm-hmm. Les voitures aussi. Ils vont même encore plus loin dans la vidéo. Tu peux. Parce que eux, ils développent l'utilisation par l'acheteur potentiel de leur modèle de création. Finalement, tu te fais ta voiture sur mesure. Je veux telle couleur, je veux tel siège, etc.
Bien sûr.
C'est de l'outil vidéo.
Bien sûr.
De l'outil vidéo poussé.
Avec même demain des nouvelles choses, l'interactivité, la réalité virtuelle qui vont amener encore une brique là-dedans. Donc, super intéressant. Petite question de curiosité sur le rev sharing, parce que ça me faisait penser, tu sais, à ce truc dont on a beaucoup parlé à l'époque, les multi-channel networks qui ont un peu avorté quelque part. Mais finalement, ce que tu disais, revenu sharing, donc c'est pas si simple finalement, parce que tu dois acquérir du coût. C'est quoi difficulté que toi qui avais vu ce modèle économique?
Oui, moi qui ai vécu de l'autre côté à vendre des droits aussi, le revenu sharing, c'est que tu ne payes pas ton contenu au départ.
Voilà.
Et tu rémunères l'ayant droit avec un pourcentage du chiffre d'affaires que tu vas générer sur son contenu.
Exact.
Ce qui est toujours un modèle un peu moins séduisant pour l'ayant droit que
d'avoir un flat fee.
Paiement upfront. C'est rarement des flat fees, mais c'est en général ce
une
qu'on
sorte d'avance, de minimum garantie. Et pourquoi, pourquoi ça marche dans la musique ? Je pense à Believe, qui est un super exemple, une success story dans la distrib, et finalement, dans le contenu, c'est moins le cas.
Non, on aurait pu le faire si on avait eu des moyens financiers bien plus importants. Après,
c'est une histoire de moyens.
Tu mobilises et tu monopolises beaucoup de cash quand même, comme tu payes upfront, avant même
d'accord.
de l'avoir
Et puis le problème
exploité.
Du market que tu disais tout à l'heure, qu'il faut vachement de budget en marketing. Parce que je pensais que c'était vous qui avez fait Cultivons-nous, le fameux channel spécialisé dans tout ce qui était développement durable et tout ça. En deux mots, pour reparler de ce cas, parce que moi, il m'avait marqué, j'avais trouvé que c'était une belle initiative.
Oui, c'était une belle initiative, mais qui était une chaîne à mission.
Voilà, un peu thématisé,
Que les gens s'abonnaient pour la cause, mais ne regardaient pas.
D'accord. L'intention était bonne, mais ça allait
L'intention était excellente.
Mais ça n'allait pas jusqu'à la finalité de distribution.
On en a vendu pas mal, des abonnements. Mais en fait, nous, on a tous les outils qui nous permettent évidemment de voir l'usage de chacun des programmes sur chacune des chaînes. C'était une chaîne qui avait très, très, très peu d'usage. Donc, les personnes étaient abonnées, restaient abonnées parce que c'est une cause qu'elles voulaient défendre. mais ne regardez pas particulièrement.
D'accord. Et gratuité, tu y crois encore sur du contenu pour monétiser ou c'est très compliqué, sauf à faire des cartons sur YouTube?
Il n'y a pas de modèle économique. Quoi.
Pas de modèle éco. Okay.
Il faut être très très gros et te dire je fais de la gratuité sur un programme parce que ça me permet de faire une sorte de campagne de publicité pour acquérir des consommateurs qui derrière vont payer. Sur YouTube, il y a forcément quelqu'un qui paye. C'est pas gratuit, tu as de la
ça,
pub en pré-roll à chaque
marques.
Fois, donc
bien sûr.
C'est pas gratuit.
Bon, bah, j'arrive dans la dernière partie du podcast. Juste question de curiosité personnelle, encore une fois, comme tu es vraiment là-dedans, ce monde des plateformes qui a un peu tout bouleversé, tu vois quoi un peu les enjeux qui arrivent? Parce que j'imagine comme moi, tu vois pas autant de qualité qu'il y a quelques années,
ah
on
bah
cherche
alors,
beaucoup.
Moi, je trouve que c'est génial, hein, j'adore. Je pense que si tu regardes historiquement, ça a quand même permis de bien réduire la piraterie sur le contenu audiovisuel.
Ça, c'est un point positif.
Et puis, parallèlement, je trouve que maintenant, l'enjeu, c'est que il y a ce qu'on appelle une petite fatigue de l'abonnement et que si tu veux voir tout ce qui te plaît, il faut aller s'abonner à 5, 6, 7 plateformes.
Ça fait beaucoup maintenant. Hein.
Et je pense que ça, c'est un enjeu qu'il commence... qui commence à être appréhendé parce qu'il y a de plus en plus d'offres en bundle et tu prends, j'en sais rien, je vais pas citer forcément, mais
oui, les opérateurs
tu prends trois offres, c'est moins cher ensemble que de prendre trois offres séparément.
Okay. Donc ça concentre un peu le marché avec ces offres bundle qui vont aussi permettre de tout avoir.
Et surtout là, on est quand même dans une période compliquée pour le pouvoir d'achat, certes des Français, mais sûrement pas que des Français. Et que donc, empiler les abonnements paraît un peu problématique. Après, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de regarder le développement, parce que c'est encore assez récent, des offres hybrides. Donc Netflix, Disney, payer soit de l'abonnement, soit un peu moins cher avec de la publicité. Comment ça va se développer? Est-ce que les consommateurs sont prêts à aller dans ce modèle-là? Ce qui semblerait être le cas, parce que si on regarde les plateformes de musique, 90% des consommateurs prennent Deezer, Spotify et consorts sur version gratuite avec publicité, plutôt que de prendre l'abonnement payant. Donc je pense qu'il y a une acceptation de la publicité forte. Si en échange,
intéressant. Donc ça va peut-être amener des nouveaux modèles, un peu de package avec la pub pour faire de la gratuité. Enfin, il va y avoir
de plus en plus. Hein. Je pense que Netflix et Disney+, là, ils sont en tête du mouvement d'hybridation, finalement, de l'offre aux consommateurs.
Et c'est intéressant parce que plus ça avance, plus on voit la spécificité de chaque plateforme. Donc ça te donne envie, évidemment, d'avoir les autres puisqu'ils sont complémentaires.
Bah,
d'un moment, tu as un manque de films français, tu te tournes à Canal Play,
tout
le monde est un
peu
là-dedans.
C'est tout l'enjeu. Et moi, je pense que c'est et c'est pour ça qu'ils se battent tant sur le contenu et l'exclusivité, l'attraction de ce qu'ils ont. Que tout le monde veut
la
voir,
guerre,
etc. Oui, c'est un peu la guerre, parce que c'est la guerre de l'abonnement. La guerre de l'abonné.
Exactement.
Et la probabilité que l'abonné ait 10 abonnements en même temps, elle est proche de zéro. Donc, je pense qu'ils sont très inventifs sur les modèles qu'ils vont proposer aux consommateurs pour qu'on continue à être abonné à beaucoup de choses.
C'est sûr que ça a été quand même une sacrée révolution de distribution et qui a même tiré tout le marché, parce que même les diffuseurs maintenant augmentent leur qualité pour cette raison. Donc c'est quand même aussi un peu vertueux. Ça attire tout le monde vers plus d'excellence, je dirais, au niveau du contenu
oui,
et du premium.
Je trouve que ça attire aussi beaucoup de diversité de création.
Voilà.
Tu parlais de Casa del Papel. Sans Netflix, on n'aurait jamais découvert ça, ou Squid Game, ou tous ces films internationaux, ou ces séries américaines, d'autres régions
d'autres
que les
pays,
États-Unis,
en local.
Que nous n'aurions pas forcément vu
s'il n'y
avait pas les plateformes.
Exactement. Donc ça fait une bonne transition, parce que c'est l'avant-dernière question sur tes goûts, que c'est la question que je pose à tous les invités. Tes goûts en matière de création, donc ça peut être un film qui t'a marqué, une BD, un livre, une musique. Enfin voilà, des créations qui t'ont accompagné.
Alors moi, je ne lis pas de BD.
Voilà.
Ne suis pas, depuis toujours, je n'ai jamais été vraiment intéressé par la BD.
C'est un roman, une nouvelle.
Alors je bouquine beaucoup, je lis beaucoup. Je suis en train de découvrir là, actuellement, le Pulitzer 23 qui s'appelle Trust.
Trust,
qui est très
ça
un Américain dont le nom m'échappe.
On retrouvera.
Ça vient de sortir. Hernan quelque chose, je ne vais pas le retrouver comme
et
ça.
Et le pitch, en deux mots, le sujet alors de Trust?
c'est un financier américain déjà richissime qui trouve le moyen. Non, parce qu'on est à la fin du siècle.
C'est avant. Ouais, ah, d'accord.
Avant la crise de 29 et qui trouve le moyen de ne pas souffrir de la crise de 29.
Pas mal.
Par le développement de mécanismes boursiers qu'il a utilisés, peut-être probablement avant tout le monde, ou en tout cas un bon timing. Et c'est toute sa vie. Et toute
c'est original. C'est une histoire. Ouais, c'est une vraie création ou il y a une partie fait réelle, tu
non,
sais
je c'est une vraie création. Une vraie fiction. Après, les mécanismes boursiers qui sont utilisés m'ont l'air d'être absolument vrais.
D'accord. Et à part ce livre, peut-être un ou deux films qui t'ont marqué de tout temps
ou une
série, enfin tes grands cultes, je dirais, en film et en série.
Moi, en série, ma série favorite, c'est Breaking Bad.
Ah voilà, bon bah ça, c'est celle qui revient le plus, c'est simple.
C'est la plus addictive.
Voilà, Vince Gilligan. Vince Gilligan.
Voilà, même quand il se passe rien, tu peux pas éteindre ta télé. C'est...
D'accord. Ce que t'as aimé, c'est l'audace, la folie de cette série complètement hors norme, très inédite, quoi.
Très inédite. J'ai adoré les personnages. Oui. Les deux acteurs sont vraiment formidables et je trouve que le duo qu'ils forment fonctionne très très bien. J'ai tout aimé. J'aimais la lumière. J'aimais la musique quand ils font leur cooking. Non, il y a vraiment plein de choses qui m'ont plu dans cette série. Alors après, bon, moi, j'ai toujours travaillé pour des Américains, même si j'ai beaucoup distribué de films français. Parce
tu
que
sais
j'ai...
qu'il a essuyé 200 refus avant de la vendre, Vince Gilligan. J'avais vu sa masterclass au Festival de Deauville il y a quelques années. En fait, il avait travaillé avant sur X-Files avec Chris Carter et il disait comment il avait Breaking Bad entre les mains, mais il se faisait bananer de partout. Et
parce que ça parlait de drogue
parce que c'était sans doute très audacieux. Et il y a une personne de Sony qui lui a ouvert la porte, mais le mec était prêt à abandonner, quoi. Je crois que c'est la même histoire pour Desperate Housewives. Donc parfois des séries qui sont des énormes cartons, ça a été ultra long, quoi. Il avait l'air très sympa, ce Vince Gilligan. En tout cas, il a fait une bonne série, quoi. Et en ciné, il y a eu un film ou en...
Moi, je suis une fan absolue du Parrain. Le 1.
Ah oui, oula, oui. Voilà. C'est les fondamentaux, là.
Bah, oui, mais voilà, si je Coppola, devais quoi. Choisir un film, ce serait celui-là. Après, j'en ai tellement vu que...
C'est vrai, c'est difficile. Je ne sais pas si tu as vu ce post sur les réseaux sociaux, c'est, on suit un peu tout le monde. C'était Marc Esposito, l'ancien patron de studio. Oui. Il a écrit avant la génération d'avant, les Coppola, les machins, c'était des géants par rapport aux mecs de maintenant, Damien Chazelle et tout. En vrai, c'est vrai.
Par exemple,
ou ça
moi,
fait...
j'ai beaucoup aimé Babylone, par exemple.
Babylone. Oui. Mais pour toi, les Spielberg Coppola, c'est un autre game quand même.
Oui, mais alors est-ce que dans 20 ans, on ne dira pas.
Oui, c'est une histoire de référentiel.
Bah oui, c'est notre génération. Moi, c'est ma génération, ça.
Et puis, ce n'était pas l'appareil quand il commençait à l'époque. Ça démarrait un peu plus. Spielberg, il rentrait dans les studios d'Universal.
Spielberg, Lucas, etc. C'était la transposition, l'âge d'or. Finalement, du système français, du pouvoir du réalisateur dans un environnement hollywoodien qui résonnait pas comme ça, où c'était le studio qui avait le pouvoir. Et je trouve que la force de Coppola, Spielberg, Lucas, ça a été de reprendre le pouvoir, finalement. Le
c'est
pouvoir
vrai, de c'était des indépendants au départ, finalement.
Ouais. Bah, mais finalement, ce qu'on fait, c'était l'époque de la Nouvelle Vague, ils suivaient ça. Hein,
c'est vrai, ils les adoraient d'ailleurs, parce qu'il avait Truffaut dans Rencontre du Troisième Type.
Et
d'accord, et puis super, et bon, bah, voilà, je me suis encore fait un petit plaisir. Et puis la toute dernière question, évidemment, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut travailler dans le monde, évidemment, du divertissement, toi qui as connu tout ce secteur.
Alors, c'est très amusant que tu poses cette question parce que depuis cette rentrée, je suis
tu donnes des cours.
Ouais, à Sciences Po.
Oui.
Moi, j'ai fait Sciences Po en son temps. Et là, je donne des cours en Master 1, Médias, Communication, Industrie Créative.
Ah, bien.
Et je leur donne un cours sur les enjeux stratégiques et financiers dans les boîtes de ces environnements-là.
Mmh.
Autant dire qu'ils ne seront jamais directeurs financiers ou contrôleurs de gestion, ce n'est pas du tout leur trip. Donc je leur apprends le minimum d'un compte de résultat, c'est quoi. Et c'est très intéressant de voir que moi, dans mon groupe, il doit y en avoir une vingtaine.
Mmh.
Il y a bien la moitié qui veut travailler dans la production d'une manière ou d'une autre.
Ah, quand même, ils veulent se rapprocher de la création.
Ouais.
Et c'est plus fort qu'avant, tu penses, ou pas ? Il y a de l'attractivité encore de ces métiers ?
Il y a encore beaucoup d'attractivité sur tout ce qui est audiovisuel.
D'accord.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y en a au moins deux ou trois qui m'ont mentionné le monde du spectacle vivant.
Ah, intéressant ça. Et grâce au stand-up, aux humoristes, il y a tout ça aussi. Oui,
mais peut-être, il y a aussi théâtre, opéra. Donc, la création continue à attirer énormément.
C'est bien.
Après, les conseils à donner, c'est... il n'y en a pas, je crois.
Enfin, deux, trois trucs peut-être que toi, tu as appris, enfin, qui t'ont servi dans ce secteur.
Moi, ce qui m'a servi, c'est que... c'est un conseil que j'avais lu il n'y a pas très très longtemps non plus d'une présidente d'une société de production qui disait de produire, c'est évidemment avoir quelques idées et être bon en créativité, mais c'est beaucoup beaucoup de tableaux Excel. Et finalement, il n'y a pas de création, surtout audiovisuelle, sans chiffres et sans financement. Parce qu'encore la musique, tu te mets dans une salle avec trois musiciens, tu peux créer quelque chose. Un stand-up, tu le mentionnais, tu te mets devant un micro, tu crées quelque chose. Un film.
C'est du budget.
Il faut du financement. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de film. Mais commence pas.
Il faut aller chercher l'argent, c'est ça la difficulté.
D'abord le financer.
Oui, voilà. C'est vrai.
Et donc je pense que pour ceux qui veulent faire vraiment de la production, il y a une grande composante financement.
Qui est clé pour toi, peut-être une des plus clés finalement. Donc peut-être aller bosser chez un Coffee Loisir, une banque de financement.
Je ne sais pas, mais quand tu discutes avec un producteur, quand tu arrives avec un projet, très vite, dans son raisonnement, il essaie de chiffrer ce qu'il faudrait pour que ce projet existe et comment il pourrait le financer avec les chaînes de télévision, les salles
combien
de cinéma.
Combien ça coûte et combien ça peut ramener. Ouais. C'est ce qu'il dit, Claude Berry disait tout de suite quel type de revenu ça peut générer, en plus du coût de fabrication.
Bien sûr.
Mais c'est le double question qu'il faut se poser. Et puis après, il y a ces goûts, comme tu as dit, sur l'aspect idée. C'est que souvent, les producteurs d'avant, il y avait une passion de la création et de l'artistique. Et parfois, on dit maintenant, attention, parce que les gens, c'est un peu trop tableur Excel et c'est un peu moins audace.
Mais moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la production et la distribution. Et ce sont deux métiers différents. Moi, j'ai fait de la distribution dans ma vie, que ce soit de la vidéo ou de l'audiovisuel ou peu importe. C'est de la distribution. Je ne fabriquais pas les produits. Et dans la distribution, moi, je me souviens d'un des présidents de Fox il y a bien longtemps qui disait, mais dans la distribution, on ne te demande pas d'aimer ou pas aimer le film.
Il faut que ça marche, quoi.
C'est même pas faut que ça marche. C'est qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour ce film, pour qu'il rencontre le plus de spectateurs possible. Que tu aimes ou que tu aimes pas le film, c'est pas le sujet quand tu travailles chez un distributeur. Et ça, c'est vrai.
Il faut être créatif, comme quand ils avaient sorti Les Ch'tis dans le Nord ou des certaines
exactement.
Idées de distributeurs qui ont fait la bascule, je dirais.
Exactement. C'est exactement ça. Okay. Et quand tu fais de la distribution, tu ne peux pas avoir le luxe de dire non, alors je n'aime pas tellement ce film, je ne vais pas vraiment m'arracher dessus. C'est pas vrai. Quand tu es embauché par un distributeur. Donc c'est ça les conseils que je donne.
C'est un beau métier. Hein. C'est des métiers quand même où il faut la foi. Hein. Quand il y a tellement de gens qui travaillent sur un projet et ça se lance à un moment... Tout le monde y croit, comme tu dis.
Oui, il faut y croire. Mais en fait, c'est tous les métiers. Si tu n'y crois pas, ça ne va pas faire.
Ça, c'est pas faux. Et bah, écoute, on finira sur cette note de foi et d'espoir. Merci beaucoup, Pauline. C'était un grand plaisir, de t'accueillir pour ce podcast.
Merci, Alexis. J'étais ravie d'être là.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.